Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 12h à Kinshasa, voici votre journal. Les Bachis de Walikale plaident pour une enquête sérieuse afin d'élucider les enlèvements suivis des tueries des commerçants et trésors artisanaux de cette communauté par des miliciens indiciens rénovés. Des allégations documentées par plusieurs sources et corroborées par l'administrateur du territoire. Les conditions de traversée des frontières entre le Sud Kivu et le Rwanda sont allégées pour les étudiants, enseignants, médecins et autres fonctionnaires résidents. Ces mesures ont été prises à Bukavu à l'issue d'une réunion tenue entre le gouverneur du Sud Kivu et son homologue de la province de l'Ouest du Rwanda. Notre invité ce midi, c'est la chef de la MONUSCO. Madame Leïla Zerougui vient d'achever une mission de 24 heures à Beni au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Au Nord Kivu, la mutualité des Bachis Madjirane de Walikale exige que des enquêtes sérieuses soient menées pour élucider la situation des enlèvements suivis des tueries d'une centaine de jeunes commerçants et créseurs artisanaux dont la majorité serait de la tribu des Bachis par des éléments d'une groupe armée NDC rénovée. C'est dans le site minier de Matungu, situé à environ 100 km du chef-lieu du territoire de Walikale, groupement Diana, secteur de Wanyanga. Ces allégations ont été documentées par plusieurs sources et corroborées par l'administrateur du territoire. D'autres précisions à Goma avec vous, Sifa Maguru.
Bachi demande que soient décrétés 3 jours de deuil à Walikale en mémoire de leurs frères portés disparus depuis le 29 octobre 2020. Il ajoute que plus de 150 personnes ont été prises en otage à Kokwe Matungu et emportées vers une destination inconnue par des présumés maïmaï du NDC rénové. La lettre ajoute que selon certains rescapés, mais aussi des informations diffusées sur une radio locale de Walikale, ces personnes auraient été égorgées et jetées dans les rivières Kokwe et Mundjuli, information qui a suscité depuis hier plusieurs réactions, notamment du député national Juvenal Munubo sur son compte Twitter où il a condamné fermement ces tueries des civils et demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Walikale, Soukissanda Mbagé, indique avoir déjà mis sur pied une commission mixte qui est déjà sur place pour s'enquérir de la situation. Celle-ci devrait rentrer de ce vendredi au chef-lieu pour lui faire rapport et préciser le nombre de personnes tuées ou portées disparues. Cette autorité indique en outre qu'il s'agit d'un site minier occupé par les groupes armés, ce qui a poussé les gouverneurs de province à suspendre toutes les activités dans ces sites illégaux. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC est arrivée ce jeudi à Bunia. À son agenda, Madame Leïla Zerougui va se rendre à Roé, localité située à environ 60 km de Bunia, où est érigé un grand site de déplacés internes victimes des atrocités de la milice de la Codeco dans les territoires de Djougou. Elle aura aussi des entretiens avec les différentes couches de la population, notamment les structures féminines, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, ainsi que les membres de la société civile. Leïla Zerougui, il sera donc question sans doute d'évoquer la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans cette province. Hier à Beni, la chef de la MONUSCO, Leïla Zerougui, a eu une série de rencontres avec les autorités militaires et administratives. Sur place à Beni, Madame Leïla Zerougui a discuté avec le responsable adjoint des opérations Sokola 1 Grand Nord sur l'évolution des opérations militaires qui sont appuyées par la FIB. Puis elle a eu une rencontre avec l'autorité urbaine avant d'échanger le soir avec les acteurs de la société civile. Pour la chef de la MONUSCO, il y a encore beaucoup à faire, mais la force de la MONUSCO travaille aux côtés des FRDC pour contenir l'insécurité. Elle est au micro de Marc Marofimbo.
J'étais avec les FRDC et je peux vous dire que nous travaillons ensemble, nous coordonnons ensemble, nous sommes des partenaires. Et notre valeur ajoutée, c'est que les FRDC, ce qui manque aux FRDC, qu'on donne cet appui-là, c'est l'appui technique, c'est l'appui logistique, c'est l'échange d'intelligence. Maintenant, qui doit faire quoi et comment, ça c'est une décision militaire qui sera discutée entre militaires et c'est eux qui vont voir quelle est la valeur ajoutée de X ou de Y. Il y a beaucoup de choses à faire pour ramener la paix. On est en travail pour réhabiliter des ponts, pour ouvrir des routes, pour électrifier certaines zones, parce que tout ça fait partie d'affaiblir l'ennemi, de renforcer les capacités des autorités et d'avancer sur la stabilisation et la paix. Et moins il y a des espaces où on peut agir facilement, plus on va réduire la capacité de nuisance de ces groupes armés.
Et puis à Kananga, de nombreux enfants nécessitent une prise en charge à Chilumba, l'une des localités de la commune de Katoka, la plus touchée par la dernière crise. Constat fait hier mercredi par le responsable de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. C'était à l'issue d'une mission d'évaluation qui a été menée conjointement avec la section DDR et les affaires civiles de la MONUSCO. Mathieu Takenge plaide pour que les autorités provinciales et les autres partenaires assistent ses enfants. Il s'est confié à Blaise Nongala Mayanda.
Il était question d'évaluer la situation des enfants après les conflits que l'on a connus depuis 2016. On s'est rendu compte que la situation a légèrement évolué, mais il s'avère que les enfants nécessitent une prise en charge. Parce que nous, au niveau de la section protection enfants de la MONUSCO, ce que nous faisons, c'est que ce qui est de notre mandat, à veiller à la protection de l'enfant en période de conflit. Nous faisons la sensibilisation, nous formons des acteurs qui doivent veiller pour la protection de l'enfant, mais il y a des actions qui doivent être menée par d'autres structures, par d'autres partenaires. Je voudrais parler ici de la prise en charge. Et cette prise en charge peut avoir plusieurs orientations. Elle peut être la prise en charge psychologique, elle peut être scolaire, sanitaire. On peut penser aussi à la réinsertion socio-économique. Donc, il est important que tous nous, MONUSCO, faisons ce que, en train de faire ce que nous pouvons faire, ainsi que d'autres partenaires puissent s'intéresser aux enfants de cette localité.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Au Sud Kivu, les conditions de traversée des frontières entre cette province et le Rwanda sont allégées pour les étudiants, les enseignants, les médecins et autres fonctionnaires résidents. Ces mesures ont été prises à l'issue d'une réunion tenue hier mercredi à Bukavu entre le gouverneur du Sud Kivu et son homologue de la province de l'ouest du Rwanda. Les deux parties ont également convenu de faciliter l'entrée des petits commerçants transfrontaliers dans leurs entités respectives. Reportage à Bukavu des Cynthia Bachizi.
Ces mesures prises pour alléger les conditions de traversée entre les frontières du Rwanda et du Sud Kivu sont entrées en vigueur dès ce mercredi soir. Toutefois, les personnes autorisées à traverser les deux frontières restent soumises aux mesures de prévention et de surveillance sanitaire contre la COVID-19. Daniel Waboshi, directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Sud Kivu, est rapporteur de la rencontre entre les deux délégations rwandaises et congolaises.
Les deux parties conviennent de faciliter l'entrée sur leur territoire des élèves, des étudiants, des enseignants, des médecins et autres fonctionnaires résidents. Les deux délégations s'engagent à continuer de faciliter les personnes qui veulent traverser pour des raisons médicales. Les représentants et ou les points focaux des petits commerçants peuvent traverser. Seuls le passeport et les laissez-passer sont admis comme titre de voyage de part et d'autre pendant ce moment de COVID.
Rappelons que c'est depuis le 15 août que les frontières sont officiellement ouvertes entre le Sud Kivu et le Rwanda. Mais dans la pratique, la libre circulation des personnes était un véritable chemin de croix tant les conditions à remplir étaient complexes. Conséquence, plusieurs personnes décidaient alors de traverser clandestinement à leur risque et péril. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et dans les provinces de la Tchopo et du Bazouélé, certains indicateurs de développement ont connu une nette amélioration en 2020 par rapport à 2019. C'est ce qui ressort de la revue annuelle du programme de coopération entre la RDC et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, organisé hier mercredi à l'hôtel Joli Rêve de Kisangani. Toutefois, certaines composantes nécessitent l'appui du gouvernement selon le souhait du chef de division provinciale du plan à Kisangani, Jacques Mkongole.
Médecins, gestionnaires scolaires, avocats, acteurs étatiques et ceux de développement ont pris part à cette séance d'analyse du programme de coopération RDC-UNICEF. Ces derniers ont réalisé qu'en dépit de la pandémie du coronavirus, la situation s'est améliorée tout de même dans certains cas, comme le précise Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan.
Il y a d'abord l'eau, hygiène et assainissement, il y a la vaccination que nous appelons immunisation, il y a l'éducation, tous l'éducation de qualité et l'enrichissement de naissance qui sont les 5 composantes actions traceuses qui sont poursuivies à travers le monitorage.
Cette amélioration est reconnue également par l'UNICEF. Cependant, son chef de bureau par intérim souhaite la révision des stratégies en vue de faire mieux à l'avenir. Sylvain Mouya.
C'est beaucoup plus cela qui constitue le défi de redressement, de révision des activités et de méthodologie de mise en œuvre des activités pour arriver à faire face aux problèmes de Covid tout en améliorant la situation des enfants et des femmes dans nos interventions.
D'autres améliorations sont aussi attendues, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des naissances à l'état civil, mais à condition que l'État apporte sa contribution, souligne le chef de division du plan, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, indexée par les propos d'un des hauts cadres de l'UDPS, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, s'est dit prêt à saisir la justice. Selon une source proche du ministre des Finances, ces hauts cadres de l'UDPS auraient accusé Sélé Yalagouli de bloquer le paiement des fonctionnaires de l'État en complicité avec le FCC. C'est confiant à la presse hier mercredi à Kinshasa, cette même source qui a requis l'anonymat a ajouté que l'état de droit semble s'appliquer de manière discriminatoire dans les circonstances sélectives. Et puis le gouvernement de la RDC a appelé à améliorer la gestion de la gouvernance foncière et forestière. Telle est la principale recommandation des journées sociales du Centre d'études pour l'action sociale. Selon le directeur du CEPAS, les participants à ces assises à l'édition 2020 ont convenu que les projets miniers et agricoles devraient obtenir les populations concernées un consentement préalable. Aussi, à noter le père Alain Zadi, les millions d'hectares de terres arables devraient contribuer à éradiquer la faim au pays, tandis que l'énorme potentiel minier devrait cesser d'être source de guerre et des crimes contre l'humanité. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La terre, c'est le pouvoir. Et contrôler la terre, c'est contrôler la société. Les panélistes ont appelé la société civile à jouer son rôle de sensibilisation à une gouvernance foncière responsable dans les secteurs miniers et forestiers. Il est vrai que les grands projets agro-industriels de l'envergure de Bukangalonzo, malgré les implications sociales inévitables sur les populations locales, peuvent contribuer au développement de la RDC, notamment en diminuant la dépendance à l'importation qui fait perdre des milliards de dollars au pays. Encore faut-il que le montage et l'exécution des 10 projets obéissent aux règles de redevabilité claires et strictes. Si toute expropriation, aussi légale soit-elle, doit obtenir de la part des populations concernées un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause.
Notez que ces assises de 3 jours sur l'accaparement des terres et les défis fonciers en RDC ont été achevées hier mercredi à Kinshasa. Ces assises ont été organisées en collaboration avec l'Université Loyola du Congo et le réseau ecclésial du bassin du Congo. Dans le même chapitre, notez que la RDC se prépare prochainement à la mise en place de la politique forestière nationale, ce qui justifie le forum de 48 heures que le groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement a lancé hier mercredi à Mbandaka. La réflexion a tourné autour des inégalités récurrentes dans l'exploitation forestière dans la province de l'Équateur. Réflexion qui a réuni autour d'une même table une vingtaine d'experts représentant les institutions provinciales, l'administration forestière, la société civile, les services judiciaires, universitaires et la recherche scientifique, mais aussi la presse. Et parmi les intervenants, le directeur des programmes de l'ONG GACH parle ici des inégalités constatées sur le terrain. Étienne Kasereka au micro de Paul-Richard Malengela.
L'exploitation forestière dans la province de l'Équateur s'est faite dans totale illégalité. C'est la province qui a accueilli le plus grand des opérateurs chinois qui ont acquis des concessions illégales parce qu'elles ont violé le moratoire. Donc ce sont des concessions qui ont été octroyées en 2015, 2018, 2020 et qui changent des jours au lendemain. L'année passée, c'était Coquimbo Ford. En 2020, ça devient Sunflower avec un autre contrat. Et donc les contrats changent année par année. Et dans la coupe, c'est catastrophique. Les Chinois coupent en violation de toute la réglementation. Leurs grumes ne sont pas numérotées. Le diamètre minimum exploitable n'est jamais respecté. Les tourbières sont totalement détruites parce qu'ils coupent dans les marécages. Ils coupent partout où ils veulent. Prenons par exemple la concession Somifor qui est en train de couper dans 3 blocs. Manye Maignan de Bolomba coupe dans tous les 3 blocs en une année. C'est une violation grave. Ne parlons pas des morts d'hommes qui se trouvent là. Il y a un travailleur qui est décédé à Bolomba parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur lui. Pas de matériel de protection. Vraiment, c'est l'illégalité dans la province de l'Équateur. C'est le braconnage.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce midi, sachez qu'en Mbujimayi, 5 agents de la société minière de Bakwanga Miba ont été licenciés sans préavis vers la fin de la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d'avoir volé une pierre précieuse au polygone minier. Ce vol a été découvert au moyen d'une télésurveillance, d'après certains agents de la Miba. Pour en parler, retrouvons en Mbujimayi Esther Ndalafina.
Sur la liste des agents licenciés, il y a le chef de service finition ainsi que ses 4 collaborateurs. Avant leur licenciement sans préavis, ces agents ont été d'abord interpellés par le service enquête du département juridique pour être entendus. L'affaire remonte de 3 semaines, affirment certains chefs de service de la minière de Bakwanga. La même source précise que le chef de service finition et ses collaborateurs sont allés à l'encontre des instructions de service qui interdisent tous les mouvements dans la salle de service de triage des diamants au polygone minier. Pour la petite histoire. Tout commence le 24 octobre dernier, déclarent certains responsables de la MIBA. Le chef de service finition s'est incliné en plein travail. Il a ramassé un objet et l'a directement introduit dans sa poche. Ce geste avait été capté par la caméra de télésurveillance qui était opérationnelle. L'agent de sécurité commis à la télésurveillance l'a intercepté et avait par la suite déposé son rapport autour de ce mouvement jugé suspect. Ce qui a poussé le département technique à visualiser le film quelques jours plus tard. La vidéo a démontré le ramassage d'un objet et de son introduction dans la poche par le chef de service finition en présence de ses collaborateurs qui n'ont jamais dénoncé cet acte. La valeur de la pierre précieuse soustraite et concentrée reste toujours inconnue. Toutefois, quelques travailleurs et agents de la MIBA s'indignent de l'acte commis par leurs collègues pendant ce dur moment de la relance de la production. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les écoles sont toujours fermées depuis le mois de mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus. Seules les classes d'examen ont rouvert les portes au mois de juin dernier. Alors que plus d'un tiers des élèves sont scolarisés dans le privé, la rentrée scolaire est marquée par un bras de fer entre les parents d'élèves et certaines écoles qui exigent le paiement des frais de scolarité pendant la période de fermeture décidée par le gouvernement. Le Soudan est confronté ce jour-ci au casse-tête de l'accueil des réfugiés éthiopiens. L'aviation éthiopienne a lancé plusieurs raids sur les positions du Tigré, tandis qu'au sol, des combats à l'artillerie lourde auraient opposé les troupes fédérales et les forces du Front de libération des peuples du Tigré. Le conflit dure depuis plus d'une semaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui estime que la guerre actuelle risque de s'intensifier dangereusement, s'attend à une vague massive. En l'espace de 2 jours, 11 000 Éthiopiens fuyant les combats se sont réfugiés dans l'est du Soudan.
L'invité.
Notre invitée, c'est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Madame Leila Zerougui vient d'achever ce jeudi une mission de 24 heures à Beni au Nord Kivu. Elle revient sur sa mission dans la région et parle également de la réaction de la MONUSCO après le jugement rendu dans le procès du meurtre des agents de la riposte contre la maladie à virus Ebola à Biakato. Elle s'entretient avec Sekombi Katondolo.
Madame Leila Zerougui, bonjour.
Bonjour.
Les jugements ont été rendus par rapport aux assassins des agents de l'OMS à Biakato. Quel est votre point de vue par rapport à ces jugements?
Pour moi, chaque fois que la justice congolaise rend un jugement, surtout un jugement où on respecte les droits de la victime et les droits de l'accusé, un jugement où on respecte les normes d'un procès équitable et la personne bénéficie d'un avocat et est jugée et elle est coupable, vous avez vu dans ce jugement, il y a eu des personnes qui ont été condamnées. Mais il y a eu des personnes qui ont été acquittées. Et donc ce n'est pas la vengeance, c'est la justice. Et ça, ce n'est pas rien. C'est important. Et pour moi, c'est extrêmement important et c'est plus important que d'aller mener une opération contre un groupe. Certains sont condamnés, sévèrement condamnés, parce que les crimes sont ignobles. Tuer un médecin qui vient vous soigner, tuer des infirmiers, venir les exécuter devant tout le monde. Il faut répondre de ces actes. Et les gens contre qui on n'a pas eu de preuves, la justice les a acquittés et nous respectons les décisions de justice. Et c'est ça, construire la paix. C'est ça, construire les fonctions régaliennes de l'État. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. La demande que j'ai eue hier, nous voulons plus de justice, nous voulons plus de présence de magistrats. Et ce message, je vais le passer et je vais travailler avec mes partenaires, avec le gouvernement congolais pour sensibiliser à tout ça. Et nous ferons ce que nous pouvons pour aider. Donc il faut non seulement condamner les gens, il faut sécuriser les prisons et il faut s'assurer que ceux qui commettent des crimes, ils répondront devant leurs victimes, devant la population qui a subi leur acte. Et c'est ça le plus important. Construire la paix, on la construit lorsque la justice, lorsque la police, lorsque l'administration pénitentiaire font leur travail. Et c'est ça, construire la paix, la stabilité et construire la confiance dans les institutions de l'État. Donc pour moi, ce jugement, ce n'est pas seulement un jugement qui a condamné quelques personnes. C'est la symbolique importante pour cette partie qui souffre.
Madame, vous parlez de renforcer les systèmes judiciaires congolais. Et que fait la MONUSCO pour arriver à avoir une justice congolaise juste, s'il faut dire en ces termes?
Les Nations Unies ont mis beaucoup de moyens pour appuyer ces processus, pour accélérer leur rapprochement de la justice du justiciable, parce que ça, c'est important. Et donc, il faut que la société comprenne que ça, c'est important et que nous devons l'appuyer, nous, en tant que Nations Unies, partenaires du gouvernement congolais, de la société, de la population, des autorités locales, mais aussi que la société appuie sa justice. Et on travaille ensemble pour éviter qu'après le conflit, on a le crime organisé, qui est terrible et qui est encore pire, parce qu'il n'y a plus, même pas un agenda politique.
Parlons maintenant de votre séjour à Beni. Vous avez été en réunion avec le maire adjoint, vous avez été aussi en réunion avec les commandants adjoints des opérations Sokola 1. Qu'est-ce que vous êtes dit avec toutes ces autorités et même les membres de la société civile?
Je suis venue pour d'abord parler à mes gens, je veux savoir comment eux ils perçoivent les choses ici, mais aussi pour parler à nos partenaires, parce qu'on n'est pas là tout seul, on est là avec les FARDC, avec les autorités locales, avec, comme je disais tout à l'heure, la justice, pour justement aider à ce qu'on maximalise les résultats qu'on peut avoir avec les moyens de plus en plus limités. Donc j'étais venue pour voir un peu d'abord si on est ensemble, si on a la même perspective et si on travaille ensemble et qu'est-ce que je peux faire moi ou qu'est-ce que j'ajoute. Ce qui m'a rassurée, c'est que aussi bien les militaires, mes militaires que les militaires congolais me disent on travaille ensemble et on se concerte et on se coordonne. Donc ça c'est quelque chose de positif parce qu'on ne peut pas être partenaire et aller en guerre ensemble s'il n'y a pas la confiance et j'ai promis que nous allons faire de notre mieux pour renforcer les capacités, améliorer notre soutien et puis de l'autre côté aussi passer les messages à Kinshasa par rapport aux priorités, aux besoins des FARDC. On doit travailler ensemble et on doit régler les malentendus et on doit aussi écouter les populations et essayer de corriger s'il y a des choses à corriger. J'ai senti qu'il y a une volonté de travailler ensemble. La confiance se construit et il faut continuer à la construire. Et je partirai avec un message plus positif que quand j'étais venue, par exemple, l'année dernière.
Madame, merci.
Merci beaucoup.
L'invité de Radio Okapi que vous veniez de suivre, c'est Madame Leïla Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Elle était interviewée par Sekombi Katondolo et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.